Genèse, chapitre 18, versets 1 à 10. Genèse, chapitre 18, versets 1 à 10. Au nom de Jésus. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit trois hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. » On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces. Puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien après près de chez moi. Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Alors Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends ce qu'il faut de fine farine et fais trois galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur, qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme Sarah ?» Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoutait. Amen. Amen. J'ai un peu regardé, comme d'habitude, à gauche et à droite, des prédications autour de ce texte ou des explications qui ont été déjà données. Et dans tout ce que j'ai vu, ce qui est frappant, la plupart parlent tous, presque tous, de l'importance de l'accueil de l'étranger. Tout le monde s'est orienté vers ce thème. Comment accueillir un étranger ? Comme Abraham a accueilli ses trois visiteurs. Et je suis sûr que, vu le contexte politique aujourd'hui, le contexte social, il y a les histoires des immigrés et tout ça, qui existent dans le monde, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui iront tous dans ce sens-là pour réveiller les consciences de la population. Mais moi, j'irai un peu dans le sens contraire, ou du moins dans le sens inhabituel. Et pour cela, une question pour moi s'impose de fait. En réalité, ici, qui fait du bien à qui? Est-ce que c'est celui qui accueille qui fait du bien aux visiteurs ou c'est le contraire? Ou est-ce que ce sont les visiteurs qui font du bien à celui qui accueille? Qu'est-ce que vous en pensez? Hey. Ben, si nous tenons compte de la remarque que je viens de faire, l'accent est mis sur l'acte parfois qu'Abraham avait fait. Tout le monde met le curseur sur ce qu'Abraham a fait. Le fait d'accueillir des invités inconnus, les donner à manger. D'ailleurs, le thème dimanche passé, on a parlé de le bon samaritain. Avoir de l'hospitalité, c'est bien. Mais en regardant bien le texte, ces trois personnes n'ont rien demandé. Ni on suppliait, est-ce que tu aurais un verre d'eau, parce qu'on vient de marcher pendant des jours et des jours dans le désert. Et surtout, l'attitude d'Abraham vis-à-vis d'eux laisse à penser qu'il semblerait, je mets ça au conditionnel, qu'il semblerait reconnaître que c'était l'Éternel qu'il voyait, qui est venu à lui, car il est dit, dès qu'il les vit, il courut et se prosterna à terre. Et dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, viens venir sous ma tente. Là, ça fait réfléchir. Ce ne sont pas juste, il y a des commentateurs qui vont dire, oui, mais c'est des actes de politesse, de tradition de l'époque, où on accueillait les étrangers et on essayait de donner tout ce qu'ils voulaient. Mais ici, c'est autre chose. Pour Abraham, c'est un honneur de recevoir ces trois hommes qui sont venus à lui. Un grand honneur, car ils ont pris la peine d'entrer sous sa tente, en sachant que l'un des trois était l'ange du Seigneur avec un grand A, ou l'Éternel lui-même. Il faut savoir, quand vous lisez les textes de l'Ancien Testament, quand la société biblique met l'ange du Seigneur au grand A, c'est-à-dire c'est le Seigneur. Si c'est l'ange du Seigneur au petit A, ce n'est qu'un ange. Bref, Dieu qui rend visite à son serviteur Abraham. Ce n'est pas une simple visite, juste pour voir comment il va, où il habite. Cela a tout son sens car, ce qu'il faut rappeler, regardez au chapitre 17, avant notre péricope, il y avait la circoncision. Abraham s'est fait circoncire très vieux, puisque c'est l'alliance que Dieu a voulu mettre en place. Marque de l'alliance, tu dois être circoncis, toi et les tiens. Donc c'est le lendemain de sa circoncision, le lendemain de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Et rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, toute alliance est scellée par un repas. Toute alliance est scellée par un repas. Et donc, ce qu'Abraham a vécu ici, ce n'est pas juste une visite, mais une visitation du Seigneur qui va confirmer l'alliance qu'il avait fait avec son serviteur Abraham. Il vient sceller par un repas. Et là, il y a un repas qui a été préparé par Abraham pour l'Éternel. Et là, on voit un Dieu qui mange. Étonnant. Il dit, je vais vous te préparer quelque chose. Il s'assoit, il prend le temps de boire, de manger. Cette visitation de Dieu pour son peuple, chers amis, est un axe central, capital, de la théologie de tout l'Ancien Testament en entier. La présence de Yahvé au milieu de son peuple est capitale pour les Israélites. Et cela est illustré dans le livre de la Genèse. Dès la Genèse, qui au passage, signalons-le, le livre de la Genèse a été écrit lors de la captivité babylonienne. Et la captivité babylonienne, c'est une période où ce peuple se sentait perdu, abandonnés, et que leur Dieu semblait être si loin à Jérusalem. Eux, ils étaient à Babylone, tout seuls, c'était leur croyance. Et à travers du récit de la création, par exemple, la vie dans le jardin, on voit bien la flagrante nostalgie juive, en mettant en exergue la présence de Dieu qui donne, qui assure la splendeur du lieu dans le jardin. On peut voir un Dieu qui se promène, regardez bien, tout est anthropomorphique. Un Dieu qui se promène dans le jardin, qui allait rendre visite le couple. Vous voyez, la thématique de la visitation de Dieu est toujours omniprésente, depuis Genèse jusqu'à la fin. Dieu qui est tout près de l'homme. Dieu qui n'est plus loin. Dieu qui mange avec son serviteur. Dieu qui boit avec son serviteur. Dieu qui se promène dans le jardin avec l'homme et la femme. Donc il y a cette nostalgie chez les Juifs quand ils étaient en Babylone. Ah, le temps où Dieu était avec nous. Et avant la captivité, il y avait la période de la traversée du désert aussi avec Moïse et Josué. Et tout lecteur débutant de la Bible ou avancé remarque tous une chose en lisant cette histoire de la traversée du désert, la présence de Dieu au sein du campement, soit par la colonne de feu, soit par la colonne de nuée. Et il est aussi dit que Moïse parlait à l'Éternel, dans Deutéronome, Dieu parlait à Moïse nez à nez, pour dire que la présence de Dieu parmi son peuple était vraiment réelle. Il n'y avait pas de limite Dieu était presque palpable. Dieu était visuel, était factice. Et cette proximité de Dieu est la base de tout la confession de foi pour le peuple d'Israël. Tout vient de cette présence de Dieu. C'est pour cette raison que Moïse a dû se battre, rappelez-vous une fois, avec l'Éternel, avec l'histoire, rappelez-vous l'histoire du veau d'or, l'Éternel était en colère. Il avait pris comme sanction, voilà, je ne vais plus venir descendre avec vous, je vous envoie mon ange parce que je vais vous exterminer si vous continuez à vous détourner de moi. Et là, Moïse s'est battu. Il a plaidoyé et il a dit ceci dans Exode chapitre 33, verset 15. « Si tu n'y vas pas toi-même, je refuse. » Qui oserait dire ça à Dieu aujourd'hui ?« Si tu n'y vas pas toi-même, ne nous fais pas monter dans cette terre, nous resterons dans le désert. » Et Dieu a changé d'avis. Être loin de la face de Dieu, ou quelqu'un qui ne verrait plus la face de Dieu parce que cette face est cachée. Voilà ce que dit le psaume 143. C'est un homme fini, quelqu'un qui est loin de la face de Dieu. Seigneur, voilà ce qui est dit dans le psaume 143. Seigneur, je n'en peux plus. Réponds-moi sans tarder. Ne détourne pas de moi sans que je serai un homme fini. Quand tu sens que la face de Dieu est loin de toi, tu te sens vraiment un être fini. Un Dieu qui ne parlerait plus, un Dieu qui ne répond plus, c'est la mort assurée. Cette thématique de visitation de Dieu se prolonge aussi dans les évangiles. L'histoire de la nativité. Marie a été visitée par Dieu. Avec la promesse de l'ange Gabriel, voilà ce qui est dit. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc chapitre 1, verset 35. Et n'est-ce pas similaire à notre texte aujourd'hui? L'ange de Seigneur qui rend visite à Marie et aussi Dieu qui rend visite à Sarah pour lui promettre un enfant. Bien que Sarah ainsi qu'Abraham étaient tous les deux sceptiques de cette promesse, ce qui est parfaitement logique, je pense que nous aussi nous en ferons autant, la promesse de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, se réalisait quand même, car seule la visitation de Dieu qui change les choses. Et là on voit encore une fois une preuve accablante, c'est pas parce que tu as cru que Dieu a répondu à ta prière, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu. Et même si tu ne crois plus, il le fera. Parce que Dieu, il est fidèle. C'est ça notre bonne nouvelle. Sarah, si vous lisez la suite, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a entendu cette parole? Et l'ange, ta femme a rigolé. Non, non, j'ai rien dit. Mais est-ce que ça a empêché le Seigneur à lui donner l'enfant? L'année d'après, le Seigneur est revenu, Isaac est né. Si Dieu attend que nous croyons en lui, je pense qu'il n'y aurait plus personne ici aujourd'hui. Mais Dieu réalise toujours ce qu'il a promis, même si nous ne sommes pas dignes de lui. La visitation de Dieu ne tient pas compte de l'incrédulité du couple. Leurs doutes n'ont pas freiné la promesse de Dieu. La promesse de Dieu au-dessus de nos doutes. Nous avons l'habitude d'entendre que si nous n'avons pas la foi, Dieu n'agirait pas. Je suis désolé. Dieu exauce toujours ce qu'il a promis. Or ici, ce n'est pas le cas. Les deux étaient en quelque sorte au bout de leurs limites, au bout de leur raisonnement humain. Et on peut dire que le Seigneur était venu pour venir au secours d'Abraham. Et dans un premier temps, un secours pour leur foi qui allait s'évanouir complètement, leur foi qui allait disparaître. Donc Dieu est venu rendre visite à ce couple pour rallumer la foi qui est déjà éteinte. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Qui fait du bien à qui? Le Seigneur vient non seulement pour donner un enfant, mais pour remettre en place la foi de ce couple qui était évanoui. Il y a ici deux bonnes nouvelles. Avant la réalisation, avant l'accomplissement de la promesse, Dieu ne laisse pas ses serviteurs dans le flou total. Il vient à la rescousse. Il vient nous remettre debout. Finalement, ce n'est même pas nous qui préservons notre foi en Dieu. Parfois, on dit, qu'est-ce que je dois faire pour préserver ma foi? C'est Dieu qui garde notre foi. Ce n'est pas nous. On peut faire des efforts. On peut dire, bon, je vais aller assister à des groupes de réunions de prière. Je vais aller à des études bibliques. Je vais aller au culte pour préserver ma foi. Mais à un certain moment, nous avons tous nos limites. Qui que soyons, que pasteur, prêtre, pape, prophète, apôtre. Regardez Abraham, le grand Abraham. Il avait son plafond. Mais Dieu dépasse nos limites. Et il le met debout, son serviteur, qui était déjà fatigué d'attendre la promesse. Il vient vers nous comme le Christ avait fait avec ses disciples. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Exemple, Jésus avec ses disciples dans la barque. Jésus qui dit qu'ils avaient peu de foi pour ne pas dire qu'ils n'avaient plus la foi. Mais cela n'a pas empêché Jésus à se lever et à faire taire la tempête. Même scénario lors de la résurrection de Jésus. Ils étaient tous cloîtrés, enfermés dans une pièce, honteux, avec la peur au ventre de se faire arrêter parce qu'ils faisaient partie des Galiléens. Et dans ces ténèbres d'incompréhension, de remise en question, finalement, est-ce que c'était vraiment un Dieu, ce Jésus que nous avons suivi pendant 3 ans? Pendant ces questionnements, voilà Jésus qui apparaît au milieu en leur disant « Pourquoi des doutes vous viennent-ils, mes enfants ?» Luc chapitre 24, verset 38. Jésus vient rendre visite pour affermir la foi qui est détruite. Le Seigneur veut rendre visite à toi aussi, pour rendre ta foi vivante à nouveau. Et la grande consolation de l'Église de Jésus-Christ, dans sa longue attente pour son retour, puisque nous l'attendons, quand est-ce qu'il reviendra? Le Seigneur vient vers nous à travers la proclamation de la parole, à travers les sacrements. Et un peu comme dans notre texte aujourd'hui, l'Éternel promet que l'année prochaine, quand il reviendra auprès d'eux, auprès de Sarah, elle aura son enfant. Mais en attendant cette promesse, en attendant que Sarah aurait son fils, il ne la laisse pas dans une attente hasardeuse. Mais il parle et mange avec lui. Voilà le secret, chers frères et sœurs en Christ. Pendant que tu attends le retour de ton maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment attendre son retour? Écoute-le. Il te rend visite à travers ses paroles. Il veut te parler pendant un culte, pendant les moments de prière. Et viens participer à sa table, viens manger avec lui. C'est ça qui te rendra la force jusqu'à ce qu'il revienne. Et ce geste qui a été fait par l'Éternel, manger la nourriture qui a été préparée par Abraham, est une forme d'engagement qu'il donne à Abraham. Dieu s'engage envers toi. Et quand Dieu dit oui, c'est un oui pour toujours. Ce n'est pas comme nous qui disons oui, après demain, peut-être pas, oui, si. Oui, que votre oui soit oui, parce que l'Éternel, c'est le Dieu de oui. Et nous attendons tous le jour du grand retour du Fils de l'homme. L'épuisement viendra, je suis sûr, nous serons tous épuisés spirituellement parlant. Nous aurons des doutes, puisque nous sommes des humains. L'absence de la persévérance pourrait nous guetter, pourrait nous piéger dans notre démarche spirituelle. Mais voici ce que Jésus nous a promis. Je ne vous laisserai pas seuls. Comme des orphelins, je reviendrai auprès de vous. Amen.